Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
La bataille pour l'emploi est loin d'être gagnée, même si le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 2009 et même si la France a créé plus de 400 000 emplois nets dans le secteur privé en 2017 et 2018 selon l'INSEE. Même si le ralentissement de la croissance en Europe n'est pas de bon augure pour la poursuite de cette amélioration, un secteur peine à recruter en France, l'industrie. Je vous en avais parlé dans un précédent podcast sur Agricool, la société qui fait pousser des fraises dans des containers en ville. C'est un problème qui ne touche pas que l'agroalimentaire. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais essayer de comprendre pourquoi l'industrie n'arrive pas à embaucher et ce que les acteurs tentent de faire pour y remédier. Claude François Peucet-Gosillet, travailler à l'usine pour les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas une sinécure. On pourrait même dire que dans leur esprit, on est plus proche de la chanson de Serge Lama.
Dans les usines, on assassine.
Depuis les années 60, la vie à l'usine a changé. Elle s'est robotisée, automatisée, bref, elle s'est modernisée. Mais son image reste ternie par des années d'annonces de fermeture et de plans sociaux.
Ses salariés déclarent être épuisés. Leurs objectifs de production sont sans cesse en hausse, quand les effectifs baissent d'année en année, moins 10% par an selon les syndicats.
Un carnet de commandes bien rempli, des investissements d'avenir, des voyants au vert. Et pourtant, Jean-Philippe sera au chômage l'hiver prochain.
Nous, on s'est toujours défoncé, et puis voilà, du jour au lendemain, on nous dit qu'ils s'en vont, et puis on nous laisse sur les carreaux, c'est pas grave.
Les mines sont sombres. Les pas pesants. Depuis l'annonce de la fermeture de leur usine, les ouvriers de Ford ont le sentiment d'avoir été trahis.
C'est un peu la face sombre de l'industrie en France, une branche qui pèse de moins en moins lourd dans le PIB. Et pourtant, il y a une réalité, c'est un secteur qui embauche. Il manque de soudeurs, d'ajusteurs, de chaudronniers ou d'opérateurs de machines-outils. Emmanuel Graland, vous êtes chef du service industrie des Échos. Il y a quelques mois, lors de la semaine de l'industrie, vous vous étiez penché sur les problèmes de recrutement du secteur. C'est un problème qui est loin d'être résorbé.
Le recrutement, c'est un problème dans lequel l'industrie patauge depuis plus de 20 ans. Mais dernièrement, c'est un problème qui s'est accentué parce qu'il y a eu un rebond de la demande après des années de crise. Et donc, aujourd'hui, on voit des industriels qui refusent de prendre des commandes faute de compétences. D'après l'UIMM, environ 40% des chefs d'entreprise ont des postes non pourvus. Alors, vous trouvez des entreprises qui manquent de soudeurs, d'ajusteurs, de chaudronniers ou d'opérateurs de machines-outils. Le tout alors que la France connaît un chômage de masse.
On a une idée, Emmanuel, du nombre de postes en fait à pourvoir ?
Grosso modo, on sait qu'il y a environ 50 000 emplois vacants dans l'industrie actuellement. Et c'est un paradoxe qui frappe absolument tout le monde. Alors bien sûr, toutes les entreprises ne souffrent pas de la même manière de ce type de problème. Les grands noms de l'industrie, les Airbus, les Thales, les Sanofi, eux, ils n'ont pas de problème pour recruter.
Ils arrivent toujours à attirer des jeunes, en fait.
Parce qu'ils ont une marque. Ils sont capables d'attirer les jeunes. Ils sont présents dans les forums. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, celles qu'on appelle les ETI. Toutes ces PME peinent souvent à se créer une marque employeur et à trouver un discours qui est adapté aux millennials. Les millennials, ce sont des gens qui sont en quête de sens dans leur travail. Et là où on a des dirigeants d'entreprise qui vont parler de loyauté, de discrétion, de fidélité, tous ces mots ne parlent pas vraiment aux jeunes. Et eux, eh ben, ils cherchent des possibilités de changer le monde, de proposer des solutions pour résoudre le problème du réchauffement climatique, la possibilité de travailler beaucoup pendant quelques années et ensuite de prendre une année sabbatique. Ça, c'est une révolution culturelle que doivent faire les PME de l'industrie et les ETI.
C'est un phénomène vraiment important pour les PME. Je crois qu'il y a eu une étude justement qui a été mise en place par BPI France auprès de ces entreprises.
Tout à fait. Aujourd'hui, on estime que 6 PME sur 10 ont leur croissance bridée par le manque de talent. Et il leur manque de toutes sortes de profils, mais plutôt des profils opérationnels, c'est-à-dire des techniciens, des informaticiens, des ouvriers qualifiés. Et il y a un problème d'embauche qui est surtout très important pour toutes les entreprises industrielles qui ont un chiffre d'affaires qui est grosso modo situé entre 10 et 60 millions de chiffres d'affaires. L'implantation géographique a aussi un impact.
Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans les endroits on va dire où le chômage est élevé, c'est plus facile de trouver des gens ?
Dans les zones à forte histoire industrielle où il y a un chômage élevé, effectivement, comme les Hauts-de-France, la Lorraine ou la région de Limoges, c'est plus facile de trouver ce type de compétences parce qu'il y a un historique et puis parce qu'il y a un nombre plus élevé de chômeurs dont beaucoup ont déjà travaillé dans l'industrie. Par contre, pour grosso modo les zones de la façade atlantique, les Pays de Loire, la Vendée et puis également la région Rhône-Alpes ou l'Alsace, là, les entreprises sont souvent frappées par de grosses difficultés de recrutement.
Pourquoi ?
Eh bien, dans certains cas, comme par exemple dans les Vosges ou en Alsace, vous avez par exemple la proximité de la Suisse qui a un impact énorme. Il y a un décalage de salaire qui est offert entre les gens qui travaillent dans des entreprises en France et en Suisse qui fait que les meilleurs profils sont captés par les entreprises situées de l'autre côté de la frontière, tout simplement.
D'un côté, les Suisses se plaignent des frontaliers qui viennent trouver du travail chez eux et de l'autre côté, les PME françaises ont du mal à embaucher. Vous le disiez, Emmanuel, c'est un problème d'image auprès des jeunes, mais aussi de leurs parents. Mais l'industrie a changé pourtant.
Grosso modo, pour une bonne partie des jeunes, la perception de l'industrie, elle est associée à, depuis une vingtaine d'années, toute une série de plans sociaux, d'usines qui ferment, de pollution. Alors qu'en fait, l'industrie, c'est aussi des innovations technologiques. Et c'est aussi une contribution importante pour être capable de répondre aux défis environnementaux et sociétaux de notre planète. Et alors ça, c'est un problème dont ont pris conscience toutes les fédérations industrielles et les grands dirigeants d'entreprises. Pour autant, l'industrie et l'État français ont beaucoup de mal à changer cette perception chez les jeunes. Il faut savoir que Bercy a lancé en 2011 la Semaine de l'industrie avec pour idée de changer son image et d'expliquer en fait aux collégiens, aux lycéens, qu'est-ce que c'était qu'une usine et qu'est-ce que c'était que les métiers de l'industrie. Mais ça, c'est un travail de fond qui prend du temps. Et si la Semaine de l'industrie a été créée en 2011, pour l'instant, on n'a pas encore vu un vrai changement de perception chez les jeunes.
Parmi les autres explications, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de formation aussi ? Si les entreprises n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds, si je puis dire, c'est aussi peut-être parce que les profils ne sont pas les bons ?
La première chose, c'est qu'il y a quand même en France un discours pour dire on manque de soudeurs, on manque d'ajusteurs, l'apprentissage c'est vraiment très bien, etc. Mais dans les faits, quand vous discutez avec beaucoup de parents, vous allez rarement entendre « Eh bien moi, j'aimerais que mes enfants, ils aillent à l'usine ». L'usine est associée depuis les années 70 avec plutôt le fait d'avoir, entre guillemets, raté ses études. Ça, c'est passé dans la culture commune. Donc vous avez un discours officiel « L'industrie, c'est bien ». Mais de là à dire « je voudrais bien que mes enfants soient ajusteurs, soudeurs », il y a un pas qui n'est pas sauté. Ce discours qui est celui des élites françaises, il est aussi celui des classes moyennes et de toute une partie des classes populaires qui n'ont pas du tout envie que leurs enfants fassent ce type de métier. Ça, c'est un point très important. Ensuite, vous avez un deuxième point qui est qu'il y a une décorrélation entre l'implantation géographique des centres de formation pour apprentis et les besoins des entreprises. Autrement dit, quand vous êtes une PME et une ETI que vous cherchez un apprenti, vous allez vous retrouver à employer un jeune qui va être chez vous durant une semaine. Et la semaine suivante, il aura son centre de formation d'apprentissage qui sera à 25, 50, 100 kilomètres. Vous allez avoir des distances à parcourir. Et ce décalage entre des zones industrielles en déclin avec des centres de formation inexistants et les implantations réelles, ben ça, ça empêche les PME de trouver des gens.
Oui, c'est ce que vous disait d'ailleurs un dirigeant il y a quelques semaines. En Allemagne, on regarde où sont les écoles et les universités. Avant de bâtir une usine, en France, on regarde où sont les subventions.
C'est un réflexe à la française.
Comment les entreprises, justement, elles s'adaptent par rapport à ça pour essayer d'attirer de nouveaux talents?
Leur idée, c'est de profiter de la libéralisation du système d'apprentissage. C'est une réforme qui a été mise en place par le gouvernement à l'automne. Et ça va permettre de donner plus de flexibilité, plus de souplesse pour pouvoir implanter des centres de formation d'apprentis là où elles en ont besoin. Alors, vous avez des entreprises comme, par exemple, le groupe Schneider, comme Safran, comme Fives ou comme Dassault Systèmes qui travaillent sur ces questions pour monter des écoles. Grosso modo, monter une école, c'est leur façon de s'attaquer aux défis du recrutement et de faire face aux pénuries de talents un peu partout en France.
Ça doit être assez sécurisant aussi pour les parents, j'imagine, de savoir que quand vous rentrez dans une école, vous avez quasiment un boulot d'assuré à la sortie.
C'est sûr que quand il y a un grand nom qui est associé à un centre de formation d'apprentis, quand c'est l'école Airbus, tout de suite c'est très attractif, tout de suite c'est beaucoup plus séduisant pour les parents et tout de suite, ça permet à un centre de formation d'apprentissage de monter en gamme. Et puis aussi, c'est une façon pour ce centre de formation de trouver plus facilement des financements pour avoir des machines, des équipements up-to-date. Et donc, de former des gens qui seront adaptés à l'industrie 4.0, qui seront capables de travailler dans des usines plus petites, plus flexibles, beaucoup plus numérisées, qui vont produire des petites séries à la demande. Et ça, c'est rassurant, ça permet aux gens de se dire « Je suis en train de faire une formation d'apprenti, mais j'ai une formation qui a de l'avenir, qui a du potentiel et qui va me permettre d'assurer mon avenir au cours des 20-25 prochaines années. »
Pour recruter, certains sont prêts à faire de gros efforts. C'est le cas de Laure Catoire-Boissé. Elle dirige une PME de l'Indre, Catoire Semi, 87 employés, à Martizet, quasiment à équidistance entre Châtellerault et Châteauroux, à une quarantaine de kilomètres. Ce n'est pas vraiment le lieu rêvé pour recruter.
C'est un lieu où il est ambitieux de recruter, en effet. Simplement, on est dans un département qui jouit d'un déficit d'image. Donc, les gens, simplement, si vous leur dites Martizet, alors ça ne leur parle pas du tout. Si vous leur dites Châteauroux, ils ne savent pas le situer sur la carte de France. Avec un peu de chance, si vous leur dites La Roche-Posay, on va commencer à pouvoir discuter puisque c'est une marque qui est connue de tous et qui situe au moins quelque chose. Mais c'est vraiment difficile de se projeter dans cet environnement. En fait.
Pourtant, on parle souvent de porter les usines à la campagne. C'est idéal, j'imagine, aussi pour la vie de famille.
Ben, nous, ça fait 50 ans qu'on l'a porté à la campagne, donc on en est plutôt fiers. Il s'agit de convaincre. Effectivement, on a une qualité de vie qui n'a pas d'équivalent, je pense. Moi, souvent, quand je me rends à Paris pour mon travail, je plains les Parisiens parce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est que les bouchons, on ne sait pas ce que c'est que le métro bondé aux heures de pointe, on ne sait pas ce que c'est que la pollution. C'est tout un tas de choses. On a un environnement magnifique, de très beaux paysages autour de nous et c'est vrai qu'il y a une forme d'incompréhension quand on vit en zone rurale sur ce rejet qu'un certain nombre de personnes peuvent faire de notre environnement.
Quel est votre principal frein pour recruter?
Alors, en effet, la mobilité, c'est quand même quelque chose qui, en zone rurale, est très important. Donc, nous, pour ces sujets-là, on a trouvé en fait des solutions. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en observant nos collaborateurs et observant donc les difficultés qu'ils avaient à se déplacer, pour certains qui n'ont pas de permis, pour d'autres qui viennent de très loin, pour qui il convient de se loger avec parfois voiture à la clé, et d'autres enfin, notamment nos apprentis, puisqu'on est une société qui est pro-apprentissage, donc on a beaucoup d'apprentis. la difficulté pour des jeunes qui sont mineurs de venir, pour certains d'employer la mobylette par tous les temps, de nuit comme de jour, été comme hiver, c'était un problème. Donc on a imaginé une solution qui aujourd'hui a tendance à surprendre, et pourtant qui est une histoire, c'est simplement d'avoir des logements dédiés à nos collaborateurs.
Oui, ça rappelle les logements ouvriers du début du XXe siècle, en fait.
En effet, c'est juste qu'on a repris l'idée en mettant un twist de modernité, mais on a racheté en fait une ferme qui est située juste en face de notre usine. Donc l'accès est direct, il n'y a qu'une route à traverser. Et dans cette ferme, effectivement, on a aménagé des logements. Donc tout a été refait complètement à neuf, parce qu'il y a un deuxième avantage, c'est que on valorise aussi le patrimoine local. Et du coup, tout a été réaménagé et modernisé. Donc on propose des logements complètement meublés, équipés, y compris avec le téléphone, Internet fourni. Les collaborateurs n'ont rien à faire.
J'ai cru comprendre aussi en lisant la presse locale qui présentait votre entreprise, Quatuor Semi, que là aussi, pour attirer des jeunes, des talents, des employés, vous étiez socialement bien disante, comme on dit. Il y avait pas mal de bénéfices.
Oui, je pense tout simplement que les entreprises, et beaucoup l'ont parfaitement compris, ont un rôle social. Et il est important d'être à la fois tourné vers son business, mais également vers ceux qui concourent de manière indirecte à son business. Donc c'est vrai que la RSE est aujourd'hui donc la responsabilité sociétale des entreprises dans toutes les bouches. Et nous, on a été poussé le concept assez loin l'an dernier, puisqu'on a fêté nos 60 ans, en allant carrément faire une journée autour de notre entreprise avec des portes ouvertes. Et en impliquant le tissu local, à la fois le tissu économique, c'est-à-dire qu'on a fait un marché de producteurs avec les producteurs locaux, pour bien montrer aussi qu'on a une gastronomie dans l'Indre, et également en invitant les associations sportives et culturelles du village. Alors, à savoir qu'à Martizet, où nous sommes implantés, on a un village qui a moins de 1000 habitants, et qu'on a 32 associations sportives et culturelles qui ont quasiment toutes répondu présentes à notre invitation.
Il y a 50 000 postes à pourvoir dans l'industrie en France, ce qui est énorme. Quelles sont pour vous les explications? Est-ce que c'est un problème de formation, d'image de l'industrie?
L'industrie pâtit d'une histoire, on va dire, contemporaine, récente, où elle avait une image complètement détériorée. Moi, il m'arrive souvent de dire on a beaucoup de chance d'avoir une industrie métallurgique amortisée, puisqu'on est situé entre l'image d'Épinal de la Petite Fadette et celle de Germinal. C'est vous dire à quel point les gens freinent à cette idée de se lancer dans une carrière industrielle. Maintenant, l'industrie a beaucoup changé et il nous appartient à tous d'y travailler. Aujourd'hui, on a déjà des changements qui commencent à se produire, ne serait-ce que notre rapport à l'éducation nationale qui évolue positivement, et les enseignants qui sont beaucoup plus porteurs du message industriel. On les a fait venir, en tous les cas, nous, localement, dans notre entreprise. On participe également aux assemblées générales des collèges qui nous y ont invités, de manière à simplement discuter et faire le point des écarts entre nos visions et faire progresser cette image négative, parce que les enseignants sont les premiers porteurs et vecteurs d'une image positive ou négative auprès des jeunes.
Et c'est aussi une question de formation, justement ?
C'est d'abord et avant tout une question d'image, et ensuite, juste après, une fois qu'on a, on va dire, suscité l'intérêt d'un jeune, c'est en effet une histoire de formation. L'apprentissage aussi revient en force, mais on peut dire qu'il n'a pas eu la cote pendant bien des années. Or, pour nous, l'apprentissage est une voie d'excellence aussi. Nous-mêmes, nous avons formé des jeunes, évidemment, à partir de la troisième, et pour certains qu'on a emmenés jusqu'au diplôme d'ingénieur. Donc, l'apprentissage, ce n'est pas cette vieille image qui consiste à dire que tu ne feras rien dans ta vie si tu commences un apprentissage.
Aujourd'hui, vous recrutez plus facilement ?
Disons qu'on s'en sort moins mal que nos collègues. Est-ce que c'est plus facile ? Non, parce que le marché s'est tendu. Mais effectivement, quand on a un poste à pourvoir, l'image de l'entreprise, de l'industrie faisant, on a moins de difficultés. Encore cette semaine, on recevait 3 jeunes qui souhaitaient nous rejoindre pour un apprentissage. Donc, c'est vrai qu'on a un intérêt, alors que d'autres entreprises, juste à côté de nous, n'ont personne en face de leur candidature.
Si de nombreuses offres d'emploi ne trouvent pas preneur dans l'industrie, c'est aussi parce qu'il n'est pas toujours facile de trouver le mouton à 5 pattes et que les postulants ne correspondent pas vraiment aux besoins des entreprises. Le gouvernement a donc fait de la formation l'un des enjeux du quinquennat. C'est ce que m'a expliqué Alain Ruello, journaliste au Service France.
Si on prend un peu de hauteur, le ministère du Travail le martèle assez souvent. Il dit que la bataille des compétences est un élément clé pour que la France maintienne son rang. On peut prendre des mesures sur la fiscalité des entreprises, sur la productivité des entreprises, mais si on perd la bataille des compétences, eh ben on sera battu par l'Allemagne, la Chine et tout un tas de pays qui avancent très vite. Donc oui, assurément, c'est un axe fort du quinquennat. Et plus concrètement, c'est aussi un axe fort pour réduire le chômage de masse. On sait qu'il y a des dizaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues en partie parce qu'il y a un problème de compétences. Et donc, l'argent ne va pas manquer, justement, et les réformes ont été menées pour améliorer la compétence des actifs en France. Concrètement, depuis que le gouvernement est en place, il a fait voter 2 réformes importantes et il met en place un grand plan dit compétences. Alors, les 2 réformes et ce plan vise chacun 3 publics différents. Les 2 réformes, c'est d'abord la réforme de l'apprentissage qui est très structurante, ça c'est pour les jeunes, on va dire. Il y a par ailleurs une grande réforme de la formation continue, la formation professionnelle des adultes, qui s'inscrit dans la continuité de toutes les réformes précédentes, mais qui y va beaucoup, beaucoup plus loin. Et les 2 axes clés, je dirais, de ces 2 réformes, c'est à la fois un mélange de libéralisation, mais aussi de contrôle par l'État. Donc beaucoup de simplification, mais beaucoup de libéralisation aussi. Et puis il y a ce fameux grand plan compétences qui lui vise un 3e public, qui est vraiment le public des jeunes sans qualification, qu'on appelle, selon le terme anglo-saxon, les fameux NEETs, hein, ni en emploi, ni en formation, ni en qualification, et puis les chômeurs non qualifiés, c'est-à-dire très souvent les chômeurs de longue durée. Alors,
en quoi il va consister justement ce plan de compétences?
Ce plan de compétences, qu'on lui a déjà trouvé un petit nom, c'est le PIC, le grand plan compétences, le plan d'investissement dans les compétences. Alors là aussi, on pourrait dire que c'est la continuité de ce qui avait été fait par la majorité précédente, puisqu'on se souvient que le gouvernement précédent avait lancé le plan 500 000 formations supplémentaires. Mais là, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Le gouvernement va beaucoup plus loin, change d'échelle. Alors déjà, par les sommes d'argent mises en jeu, puisque c'est un peu moins de 15 milliards d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent. L'objectif, c'est de former 1 million de jeunes sans qualification et 1 million de chômeurs sans qualification. C'est beaucoup sur la durée du quinquennat. Mais en plus de cette enveloppe d'argent qui est beaucoup plus importante, il y a aussi une volonté de jouer sur la durée et de ne pas faire ce qu'on appelle le stop and go budgétaire, donc de rajouter de l'argent ou d'en retirer, etc. Alors concrètement, cet argent, en fait, il est décliné dans ce qu'on appelle des pactes. Des pactes, ce sont des plans régionaux. Donc le gouvernement, enfin, il y a eu un haut commissaire, Jean-Marie Marx, l'ancien directeur général de l'APEC, qui a été nommé pour piloter tout ça et qui a négocié avec toutes les régions de France, en tout cas celles qui étaient volontaires, des plans région par région pour coller au mieux, c'est l'ambition en tout cas, aux besoins de chacune des régions et ne pas imposer depuis Paris les mêmes préconisations. Alors, toutes les régions ont signé, ça a pris un peu de temps, l'année 2018 a été une année de transition et les pactes ont été signés sur la durée 2019-2022, d'où cet effet sur plusieurs années pour éviter le stop and go dont je parlais. Toutes les régions, sauf 2, ont joué le jeu. Hein. PACA et Rhône-Alpes n'ont pas souhaité s'engager, auquel cas c'est Pôle emploi qui récupérera l'argent. Cet argent, en fait, c'est 15 milliards, en l'occurrence c'est un peu moins, c'est la moitié des 15 milliards qui va aux régions. Par exemple, l'Île-de-France va toucher 1 milliard sur cette durée 2019-2022, la Nouvelle-Aquitaine un demi-milliard, Auvergne-Rhône-Alpes via les agences Pôle emploi de cette région 651 millions, donc c'est beaucoup d'argent. Il s'additionne, ça c'était un des prérequis de ce plan, à l'argent que les régions mettent par ailleurs. Donc c'est un plus par rapport au budget des formations des adultes, puisque c'est une compétence des régions. Et donc, chaque plan, en fait, a fait l'objet d'un travail de plusieurs mois à identifier des formations en regard de formations spécifiques, normalement, aux besoins de chaque région. Il y a une grande dose d'innovation pédagogique aussi. Chaque région était libre d'investir, par exemple, dans la réalité virtuelle ou, par exemple, dans tel ou tel type de formation avec des procédures qui leur sont propres. Et tout ça vient de démarrer puisque les derniers plans ont été signés au printemps.
Il faudra attendre un peu pour faire le premier bilan de ce PIC et de son impact notamment sur le chômage de longue durée. Merci Alain Ruello du Service France et merci à Emmanuel Graland du Service Industrie. Merci également à Laure Catoire-Boissé pour son témoignage instructif de patronne de PME. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver nos précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.